ce passage ouvert devant vous. La semaine dernière, j'ai regardé une vidéo sur le tsunami qui a frappé plusieurs pays en Asie le 26 décembre 2004. Vous vous en souvenez sans doute. Un séisme s'est produit au large de l'île indonésienne de Sumatra avec une magnitude de 9,1 à 9,3. C'est juste énorme. Et dans les minutes et les heures qui suivent le début du séisme, un tsunami de plus de 30 mètres de hauteur, 30 mètres de hauteur, a frappé l'Indonésie, les côtes du Sri Lanka et du sud de l'Inde, ainsi que l'ouest de la Thaïlande. Le bilan en vie humaine est estimé à au moins 250 000 personnes disparues en quelques heures. Comme dans un film d'horreur, ce documentaire que j'ai regardé montre des gens qui jouent sur la plage sans la moindre peur, en toute sécurité, toute sérénité. Mais des scènes de calme et de paix, parce que maintenant on a des portables pour filmer, les gens qui filmaient la vague, le tsunami qui arrivait, ils étaient là sur la plage en train de filmer le tsunami qui était à quelques mètres de la plage. Et les scènes de calme et de paix se sont transformées en un clin d'œil, en scènes d'horreur, de frayeur et de mort. On entend, si vous regardez cette vidéo, vous allez entendre des eaux qui montent, on entend la force des eaux qui passent dans les rues, qui balayent tout sur son passage. Et le pire, c'est qu'on entend des cris des gens en train de se faire emporter par des eaux. Et ils ne peuvent rien faire pour se sauver. Quelques minutes auparavant, calme, tranquillité, bonheur, sécurité. Et puis 250 000 personnes effacées de la surface de la Terre. Et c'est parmi les événements les plus terribles dans l'histoire de l'humanité. Pourtant, par rapport à ce que nous venons de lire dans Genèse 7, le tsunami, c'était simplement une petite catastrophe régionale. Le tsunami a vu la destruction de 250 000 personnes dans quelques pays. Le déluge a vu la destruction de plusieurs millions de personnes sur toute la surface de la Terre. Quand il y a des gens qui essaient de vous dire que le déluge était un déluge régional, c'est du grand n'importe quoi. Vous avez lu dans le texte toute la surface, toute la surface, toute la surface. Après la mort de Jésus-Christ, je dirais que ce récit que nous étudions aujourd'hui, c'est l'événement le plus terrible dans l'histoire de l'humanité. Mais nous devons faire attention de ne pas simplement voir cet événement comme un événement isolé de l'histoire de l'humanité. Une histoire qui n'a aucun rapport avec le reste de l'histoire. Nous devons impérativement voir le déluge comme le Seigneur Jésus a vu le déluge. Et Jésus l'a vu comme un avertissement. Il l'a vu comme un avertissement d'un jugement encore plus terrible que le déluge. Vous imaginez? On a déjà du mal à imaginer quelque chose qui est pire que le tsunami. Mais Jésus se sert du déluge pour parler d'un événement encore plus terrible. Le récit du déluge nous permet de mieux comprendre le jugement futur qui aura lieu à l'avènement de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous allons considérer le chapitre 7, et dedans, nous verrons trois personnages principaux. Et nous allons considérer les trois, chacun à son tour. D'abord, il y a Noé. Noé, il entend le commandement de Dieu, il entend, et par la foi, nous avons déjà vu, il croit et il obéit. Et la foi et l'obéissance sont soulignées à plusieurs reprises dans ce passage. Nous avons déjà vu ça la semaine dernière, il y a 2 semaines, en chapitre 2, 6, verset 22. Noé agit en tout point comme Dieu lui avait ordonné. Mais regardez aussi le verset 5. Noé agit en tout point comme l'Éternel lui avait ordonné. C'est les mêmes paroles. Verset 9. Comme l'Éternel avait ordonné à Noé. Verset 16. Comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Et c'est intéressant de noter que l'auteur décrit deux fois l'entrée de Noé dans l'arche. Verset 7 et verset 13. C'est le même événement. Pourquoi souligner ça? Pourquoi dire deux fois que Noé est entré dans l'arche? Je pense que c'est parce que l'auteur, il se donne de la peine pour souligner l'obéissance de la part, l'obéissance de foi de la part de Noé. Il veut nous montrer comment nous devons répondre à la parole de Dieu qui nous avertit d'un jugement et qui nous révèle le seul moyen de nous échapper de ce jugement. La parole de Dieu demande une réponse de foi et d'obéissance. Dieu parle à Noé de quelque chose que Noé ne voyait pas. Dieu demande à Noé de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Construire une arche dans un pays aride, nous avons déjà vu, c'est la folie. Se consacrer à une vie que le monde trouve bizarre, c'est la folie. Personne d'autre ne le fait. Personne d'autre ne croit. Personne, personne, sauf sa famille. Mais dans le monde, personne. Et l'auteur souligne encore une fois la foi et l'obéissance de Noé. Pendant 100 ans, pas de pluie. Pendant 100 ans, imaginez ça. On aurait compris si au bout d'un an, au bout de 10 ans, au bout de 50 ans, en train de construire l'arche, Noé avait dit à ses fils, « Eh, ça y est, je me suis trompé, il n'y aura pas de déluge. » Dieu a dit, « Mais là, 50 ans quand même. Arrêtons la construction, on va vendre le bois et bon, on va retourner à la vie normale. » Parce que là, c'est ridicule ce que nous faisons. Non. Jour après jour, il continue à croire à ce qu'il n'avait pas vu. Il continue à faire confiance à la parole de Dieu. Et il continue à obéir. Il ne vit pas par la vue, il vit par la foi. Et l'auteur veut souligner ça. L'auteur écrit ce récit à un peuple entouré par des nations qui ont leur propre Dieu visible. Et le peuple du vrai Dieu doit apprendre à vivre par la foi en Dieu qu'il ne voyait pas, à obéir à la parole de Dieu, même si Dieu ne se voit pas. Dieu dit à son peuple, écoutez ma voix et par la foi, obéissez à ma voix. Même si vous ne me voyez pas, même si les nations autour ont leur propre Dieu, vous ne vivez pas pour les choses visibles, mais pour les choses invisibles. Et le peuple de Dieu de l'Ancien Testament vivait par la foi en des promesses, des réalités futures, mais invisibles. Un sauveur futur, mais invisible. Et si vous êtes chrétien, le monde vous trouve bizarre aussi. Le monde ne vous comprend pas. Les membres même de votre famille ne vous comprennent pas. Essayez demain de parler de la colère de Dieu contre le péché, du jugement de Dieu, et vous verrez la réaction. Essayez dans le bac de philosophie d'écrire d'un Dieu qui va juger le monde, et voyez la note que vous aurez. Le monde vit pour les choses visibles, pour les royaumes de ce monde, mais par la foi, nous vivons pour le royaume de Dieu, nous vivons pour les choses invisible. Et par la foi, nous obéissons même si le monde nous trouve bizarre, ridicule. et surtout en ce qui concerne le salut. Dieu nous révèle que le salut du péché et le jugement du péché se trouvent, le salut du jugement se trouve en une seule personne, c'est-à-dire en Jésus-Christ. Et le monde trouve cette idée insupportable. Comment oser dire que toute autre religion en tort? Comment oser dire qu'il n'y a qu'un seul chemin? Un seul chemin. Comment oser être si arrogant de dire qu'il faut même être sauvé? Dire ça aux gens. Mais Dieu a parlé. Noé l'a écouté. Il a cru que le seul moyen de s'échapper du jugement, c'était d'entrer dans l'arche. Et par la foi, il a obéi et il est sauvé. Et Dieu vous a parlé. Avez-vous entendu la parole de Dieu, la voix de Dieu? Avez-vous cru en des choses que vous ne voyez pas? Avez-vous obéi à Dieu, tout comme Noé a obéi par la foi? Êtes-vous venu à Jésus, le seul moyen de s'échapper, de vous sauver? Donc la première personne, le premier personnage, c'est Noé. Deuxième personnage, c'est Dieu. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est intéressant de noter que dans tout le récit du déluge, Noé ne dit pas un seul mot. Chapitre 6, rien. Chapitre 7, rien. Chapitre 8, rien. C'est qu'à la fin du chapitre 9, quand ils sont sortis de l'arche, où Noé prend la parole. Noé ne dit rien. Il entend la parole, il exerce la foi et il obéit. Il dit rien. C'est toujours Dieu qui parle. Et ça nous confirme que le personnage principal dans le récit, ce n'est pas Noé, c'est Dieu. C'est Dieu qui voit le mal et la méchanceté sur la terre. C'est Dieu qui réagit. C'est Dieu qui annonce son jugement et son plan de salut. C'est Dieu qui explique à Noé ce qu'il doit faire pour échapper du déluge. C'est Dieu qui établit son alliance que nous avons vue la dernière fois. L'histoire du déluge, c'est l'histoire de Dieu, de son jugement et de sa grâce. Alors, qu'est-ce que nous voyons de Dieu dans le chapitre 7? Encore une fois, nous voyons un commandement donné à Noé d'entrer dans l'arche. Et encore une fois, Dieu annonce son plan de sauver l'humanité ainsi que les animaux. Notez ce que Dieu dit à Noé au verset 2 et 3. Il dit de prendre 7 couples de toutes les bêtes pures. On ne voit pas ça dans les livres pour les enfants, c'est toujours 2, 2, 2. Mais en fait, Dieu dit, prenez 7 couples des animaux purs. Alors pourquoi faire ça? C'est parce que Dieu envisage une vie après le déluge. Et il envisage une vie de sacrifice. Les animaux que Noé va offrir en sacrifice à Dieu. Dieu prépare déjà avant le jugement, il prépare Noé pour une vie après le jugement. Il lui donne de l'espoir. Vous allez survivre. Quand vous sortirez de l'arche, vivant, vous aurez besoin de ces animaux pour les offrir en sacrifice. Et puis au verset 4, il y a une nouvelle annonce du déluge qui est imminente. La première annonce du déluge était 100 ans auparavant. Mais maintenant, le moment est venu. La patience de Dieu s'est épuisée. L'Esprit de Dieu ne luttera plus contre l'homme. Dieu décrit en grand détail ce qu'il va faire. Regardez verset 4. Dans 7 jours, je vais faire venir la pluie sur la terre 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Et puis nous lisons au verset 10. Les choses se passent exactement comme Dieu avait dit. 7 jours après, c'est presque le même langage, le vocabulaire, 7 jours après, les eaux du déluge vinrent sur la terre. Et ça nous confirme que quand Dieu promet de juger, Dieu juge. Le verset 11 décrit un jour précis dans l'histoire, un jour choisi par Dieu, au moment précis. On se demande, mais pourquoi mettre cette date, pourquoi mettre la date du déluge? L'an 600 de la vie de Noé, le deuxième mois, le 17e jour du mois, en ce jour-là, toutes les sources, et ainsi de suite. Qu'est-ce que Dieu avait dit au verset 4? Je vais faire venir la pluie sur toute la terre 40 jours. Qu'est-ce qui se passe au verset 12? Il y eut de la pluie sur la terre 40 jours et 40 nuits. Exactement comme Dieu avait dit. Et dans ces versets, écoutez bien, dans ces versets, l'auteur souligne le fait sûr et certain que Dieu tient parole. Et quand Dieu avertit du jugement contre le péché, vous pouvez être sûr que Dieu jugera le péché. Exactement, exactement comme il le prédit. Ce récit est là pour la personne qui est tentée de dire, Dieu a dit qu'il y aura un jour de jugement, mais moi, j'y crois pas. Dieu a dit que tout péché sera jugé. Non, pas sûr. Mes amis, Dieu a déjà choisi le jour. Il a déjà choisi le jour. Il y aura une heure précise, un jour précis, un mois précis, une année précise, où Jésus-Christ reviendra pour juger. Et Dieu a déjà fixé ce jour. Jésus a dit que son père connaît l'heure. À plusieurs reprises dans la Bible, nous lisons la phrase en ce jour-là. En ce jour-là. Les auteurs de la Bible parlent d'un jour futur, un jour de jugement. Et Dieu avertit encore, comme il a fait pour le déluge. Le déluge s'est passé exactement comme Dieu avait dit. Et le même Dieu qui a eu raison en ce qui concerne le déluge, ne serait-il pas digne de confiance en ce qui concerne le retour de Jésus-Christ? Est-ce qu'il va se tromper quand il nous dit qu'il y aura ce jugement? Satan veut nous dire, Dieu a-t-il réellement dit qu'il y aura un jugement? Vous vous souvenez de ce qu'il a fait après avec Adam et Ève? Il a dit, il n'y aura pas de jugement. Il sème le doute. A-t-il réellement dit? Et puis il contredit. Il n'y aura pas de jugement. Et Satan a convaincu la plupart de nos contemporains qu'il n'y aura pas de jugement. Dieu a dit et Dieu le fera. Et le texte aussi souligne l'étendue du jugement. Dieu a fait jaillir les profondeurs des océans. Les plaques tectoniques de la terre ont été secouées et les eaux, nous disons, grossirent et montèrent énormément. On essaie d'imaginer, comme dit le verset 19. L'eau du déluge n'est pas simplement la pluie qui est tombée. L'eau est montée des océans, l'eau est montée de l'abîme. Le jugement vient de tous les côtés. Il est tellement sévère et tellement compréhensif. Le jugement de Dieu arrive et il est terrible. Et la force du jugement nous frappe. À partir du verset 17, six fois, en quelques lignes, nous lisons les eaux. Et une traduction littérale du verset 18, si vous regardez, serait les eaux ont vaincu. Les eaux étaient là pour faire la guerre contre l'humanité. Les eaux, les eaux, les eaux, les eaux que Dieu a envoyées. Et en quatre fois, nous voyons le mot tout. Tout a été effacé. Tous les animaux, tous les êtres humains. Rien en dehors de l'arche ne s'échappe. Rien. Dieu a promis de juger et Dieu juge. Mais il y a encore quelque chose que Dieu fait dans ce chapitre. Et je veux passer quelques moments à considérer ça. C'est le verset 16. Regardez le verset 16. C'est un petit détail qu'on pourrait facilement louper. C'est la dernière phrase du verset. Puis l'Éternel ferma la porte sur lui. Pourquoi cette phrase est-elle si importante? Pourquoi est-elle si importante que ce soit Dieu qui ferme la porte? Pourquoi pas Noé? Pourquoi pas Noé et ses trois fils qui ont tiré? Il y a quelque chose de surnaturel qui se passe ici. Dieu ferme la porte. Tout comme le voile a été déchiré dans le temple, là, la porte est fermée par Dieu. Il y a deux raisons importantes. D'abord, ça garantit la sécurité de Noé et de sa famille. Je viens de dire, il s'agit ici d'un acte surnaturel. Dieu ferme la porte. Dieu lui-même garantit la sécurité de tous ceux qui sont dans l'arche. Il n'y aura pas de fuite. La porte ne s'ouvrira pas par accident pour laisser entrer l'eau du déluge. Dieu a dit de construire une arche et en fermant la porte, Dieu en garantit la sécurité. C'est l'arche de Dieu. Et la sécurité de Noé et de sa famille dans l'arche, c'est une image pour nous de la sécurité qu'il y a pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, pour les sauver du jugement contre le péché. En Jésus, il y a de la sécurité absolue. On peut essayer d'imaginer comment c'était dans l'arche, en entendant la pluie, en entendant les eaux qui frappaient contre l'arche. Est-ce qu'ils ont eu peur? Est-ce qu'ils se sont dit, est-ce que ça va tenir? Là, on est bousculé quand même. Est-ce que la porte va rester fermée? Sinon, on sera perdu. Si cette porte-là s'ouvre, on est perdu. Et en Jésus-Christ, peut-être que vous avez des doutes. Peut-être que vous vous dites, est-ce que moi je suis en sécurité en Christ? Est-ce que tout mon péché est pardonné? Est-ce que tout, même ce péché-là que personne ne sait ce que j'ai fait, est-ce que ça c'est couvert par Dieu? Est-ce que je suis vraiment en sécurité en Jésus-Christ? Paul dit dans Romains 8, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation, aucun jugement pour ceux dont le péché est couvert complètement, entièrement par le sang de Jésus-Christ. Jésus a déjà subi la condamnation sur la croix. Satan ne pourra faire céder la porte pour nous arracher de la sécurité en Jésus-Christ. Parmi ceux qui sont véritablement en Jésus-Christ, il n'y aura pas de cri de « homme à la mer » ou « femme à la mer ». Non. Les eaux du jugement de Dieu ne toucheront point ceux qui s'abritent en Jésus-Christ. Je vous lis quelques versets d'Ésaïe 43. Ne crains rien, dit l'Éternel, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, et souvent l'eau et le feu, c'était symbolique du jugement de Dieu. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Et ce petit mot car est important. Ces choses-là ne vous arriveront pas, car je suis l'Éternel. Et je vous tiens en sécurité. Tout comme il a tenu Noé et sa famille. Mais quand Dieu ferme la porte de l'arche, ce n'est pas simplement pour protéger ceux qui sont dedans. C'est un acte terrible de jugement contre ceux qui sont dehors. Ceux qui ont refusé d'entrer dans l'arche, c'est un moment solennel. Il n'y a plus de grâce pour ces gens-là. En fermant la porte, Dieu dit, c'est fini. Ma patience est épuisée. Le jour de ma grâce est fini. Maintenant, c'est le jugement. Vous avez eu du temps pour vous repentir. J'étais prêt à vous pardonner. Je vous aurais accepté. J'étais prêt à vous pardonner, à vous sauver. Vous avez piétiné ma grâce. Maintenant, il n'y en a plus. Cette phrase, Dieu ferme la porte, c'est un terrible avertissement pour ceux qui ne sont pas encore en Jésus-Christ, qui ne se sont pas encore repentis de leurs péchés, qui n'ont pas encore fléchi le genou devant Jésus le Seigneur. Parce que cette phrase dit qu'un jour, Dieu va fermer la porte de sa grâce. Ces gens-là, ils pensent, moi j'ai encore du temps. Je viendrai à Dieu plus tard dans ma vie. Mais la Bible nous dit ici qu'à n'importe quel moment, Dieu peut fermer la porte de sa grâce. Il peut décider de retirer sa grâce. Si vous n'êtes pas encore en Jésus-Christ, vous ne savez pas si vous aurez l'occasion demain ou après-demain ou dans un an ou dans 10 ans. Vous ne savez pas si la porte sera encore ouverte. Ne soyez pas présomptueux en ce qui concerne la grâce. Si vous la rejetez aujourd'hui, peut-être que Dieu va retirer sa grâce aujourd'hui. Vous n'entendrez plus son appel. Votre cœur sera trop endurci. Et Dieu va dire, ça y est, c'est fini. Il peut fermer la porte. Si je décris quelqu'un ici ce matin, je vous dis tout simplement que Dieu vous dit de venir aujourd'hui. Écoutez les paroles qui se trouvent ailleurs dans la Bible. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous avons chanté aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, la porte est ouverte. Pour demain, qui sait? Qui sait? Donc les deux personnages, Noé et Dieu, et troisièmement, les troisièmes personnages, c'est les non-croyants. Les non-croyants. Qu'est-ce que ce passage dit sur les non-croyants? Est-ce que vous avez vu des versets qui en parlent de ce qu'ils ont fait avant la venue du déluge? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment se sont-ils préparés? Que dit le passage? Rien du tout. Rien du tout. Pas un seul mot. Malgré les avertissements, malgré le témoignage de Noé, malgré ses prédications sur le jugement de Dieu contre le péché, ils n'ont rien fait. En 120 ans, pas une seule personne ne s'est tournée de son péché. Ils n'ont rien fait. Mais Jésus décrit ce qu'il faisait dans Matthieu 24. Nous avons déjà lu ce passage. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour de Noé entre dans l'arche. Le jour où le déluge, le 17e jour, c'était le jour de mariage pour des jeunes, là-bas. Il y avait une jeune épouse qui mettait sa robe. Le jour où il a commencé à pleuvoir. Ils menaient leur vie sans aucune pensée de Dieu, sans le moindre souci. Imaginez, le jour où le déluge est arrivé, c'était un jour normal comme les autres. Quelques gouttes de pluie sont tombées. Et encore des gouttes. Petit à petit, le ciel se couvrait de nuages. Et au début, il n'y avait pas de panique. On a vu de la pluie déjà. C'est pas grave. Mais ils se sont levés le lendemain et il pleuvait encore. Et quelques-uns commencent à dire, ça, c'est pas normal, on n'a pas vu la pluie comme ça. Et le lendemain, il pleut encore. Et le lendemain, il pleut encore. Et là, c'est la panique. La peur, la panique. Et dans l'original, il y a deux mots différents pour la pluie. Au verset 4, on voit le mot pluie, et c'est le mot pour un pluie normal. Mais au verset 12, le français ne le fait pas, on ne voit pas, mais le mot est beaucoup plus fort. C'est une pluie violente, une pluie qui fouette, qui cingle. Et au bout de 3 jours, il n'y a plus de moquerie. Il n'y a plus de moquerie. La moquerie est remplacée par la peur. Et les gens se regardent. Et quelqu'un ose dire, et si Noé avait raison? Si Noé avait raison. Tiens, on va aller voir son bateau. On va aller voir s'il y a encore de la place. Mais c'est trop tard. Le bateau est fermé. Il frappe à la porte du bateau. Imaginez ça pour Noé et sa famille. Ils entendent des gens qui frappent pour rentrer dedans. Heureusement que c'était Dieu. Ça aurait été un peu insupportable de demander à Noé de fermer la porte. Ils entendent des cris des gens. Ouvre-nous. Trop tard. Et puis les gens commencent à se battre. Ils montent sur les collines, les montagnes. Il n'y a pas assez de place. Ils se battent. Ils se poussent dans l'eau. Vous imaginez, ce sont des scènes d'horreur. Regardez les vidéos sur les tsunamis et vous entendrez des cris désespérés. Des gens qui se rendent compte, Noé a eu raison. Et le texte souligne que chacun de ceux qui ont mené leur vie sans Dieu a péri. Chacun a péri dans les eaux de jugement. Les versets 21 à 23 sont parmi les versets les plus terribles. C'est une scène d'horreur absolue et totale. On ne peut pas imaginer. Et Jésus dit que ce n'est qu'un avant-goût du jugement futur qui sera encore plus terrible. Notez bien ce que Jésus a dit. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Nous avons lu ce passage dans Apocalypse, des tremblements de terre, des étoiles qui tombent du ciel, les gens qui se cachent dans les cavernes et dans les rochers. Ce n'est pas l'eau cette fois-là, c'est le feu. Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône. Ils se rendent compte que l'heure du jugement est arrivée. Mes amis, pécher contre Dieu est une chose terrible. C'est une chose terrible. Le Dieu saint et juste est le péché. Sa colère juste et sainte brûle contre le péché. Et le jour viendra où Jésus-Christ reviendra pour le grand jour de jugement. Dieu nous avertit. Dieu nous avertit. Croyez-vous que votre péché est grave? Après tout ce que nous avons vu, le déluge, c'est le jugement contre le péché. Essayez de me persuader que le péché n'est pas grave. À partir de ce texte. Croyez-vous que votre péché ne mérite pas le jugement de Dieu? Mais dans sa grâce, Dieu nous avertit. Dieu nous avertit maintenant. Il vous dit qu'il y a une arche. Et l'arche est Jésus-Christ. Et l'arche était le seul endroit où nous pouvions être sauvés. Et Jésus-Christ est le seul, mais le seul endroit où vous pouvez vous abriter. En Jésus, le pécheur est pardonné. Il est en sécurité. Il a une nouvelle vie. Sa vie est assurée. Le salut du jugement de Dieu se trouve en Jésus-Christ seul. Il a déjà été puni. Il a déjà subi les eaux du jugement contre le péché des gens comme vous et comme moi. Il a pris sur lui les eaux du jugement, le feu du jugement, contre mon péché et le vôtre si vous êtes en Christ. Dieu a versé sa colère sur le monde de Noé, mais sur la croix, il a versé sa colère sur son Fils. Ça, c'est l'horreur et la beauté de la croix à la fois. Et aujourd'hui, Dieu vous commande de venir vous abriter en lui. Gloire à Dieu pour sa grâce manifestée en Jésus-Christ. Mais je finis avec ces deux versets encore. Où quand il y a au moins, même une personne qui n'est pas encore venue. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Et aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Venons maintenant à quelques moments ensemble de prière.